au plaisir d'insolence.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'émission qui prend le temps de parler littérature.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Elisabeth Antebi pour Au plaisir d'insolence, l'émission qui prend le temps de parler littérature, reçoit Vassilis Alexakis. Bonjour Vassilis.
Bonjour.
Récemment, je me prenais pour la langue française et je vous faisais une grande déclaration d'amour en tant que langue française, bien entendu. Ça vous a plu, ça, hein?
Ah oui, non, c'est plaisant, bien sûr, toujours.
Bon, et aujourd'hui, vous venez nous parler. Alors, dites votre sujet parce que je le trouve très beau.
Écoutez, je pense que c'est pas mal de parler, pas exactement des livres qu'on a lus, des auteurs qu'on a aimés, mais de voir ces livres sous l'angle comme un cours de littérature. C'est-à-dire, il y a des écrivains, en gros, qui sont de bons professeurs, qui vous apprennent des choses utiles pour quelqu'un qui veut écrire, n'est-ce pas? D'autres qui vous découragent ou qui sont assez nuls ou qui peuvent être de très bons auteurs mais très mauvais professeurs. C'est une autre qualité d'être un bon professeur de littérature en même temps que d'écrire de bons romans. Voilà, donc c'est ça un peu le...
Et alors vous allez donc nous parler de ceux qui vous ont encouragé
sujet.
À écrire et ceux qui vous en ont dégoûté, enfin, qui ont failli vous en dégoûter.
Oui, qui me dégoûtent. Par exemple, on peut passer tout de suite, entrer dans le vif du sujet. Dire par exemple que des auteurs comme Kazantzaki ou Hugo sont des écrivains qui n'encouragent pas à écrire. Ils font du grand spectacle, ils présentent des scènes faramineuses. Ils sont assez impressionnants en un sens, et puis ils ont le goût des personnages excessifs, très puissants, très bons. Aussi bien, je veux dire que Jean Valjean, c'est un peu l'équivalent de Zorba, c'est un genre de Zorba français, on pourrait dire. Donc des personnages hors du commun, des situations hors du commun, tout cela merveilleusement raconté, mais cependant, on se dit que jamais on ne pourrait faire ça. On a l'impression un peu d'assister à une mise en scène de Zeffirelli. Bon, ça dépasse les moyens du jeune lecteur.
Est-ce que vous mettez dans le même pot, si j'ose dire, deux écrivains eux aussi énormes, comme lui dit l'autre, Dostoïevski et Dante?
Pour Dante, c'est difficile à dire, parce que c'est quand même de la poésie, c'est un peu autre chose, c'est un autre rayon. Dostoïevski, pas vraiment, parce que Dostoïevski a le goût, et même il est assez fasciné par les pauvres gens, les gens qui se ratent, les suicidaires. Je veux dire, la grande différence entre Hugo et Dostoïevski, c'est que Dostoïevski a intitulé un de ses livres « L'idiot », et que pour Hugo, c'est exactement le contraire, c'est le héros classique, etc. Et assez invraisemblable. Je les trouve tous les deux assez excessifs, l'un dans le genre misérabiliste quelquefois.
Le misérable.
Oui, et l'autre, mais c'est Dostoïevski, et l'autre dans le genre épique tout à fait excessif. D'autre part, pour Hugo, il y a une autre faiblesse énorme, c'est qu'au fond, le roman ne l'intéresse pas vraiment, on se rend très bien compte de ça. Hugo, c'est un peu l'école de la République. Il veut tout apprendre à son lecteur. Son objectif, c'est une société meilleure. C'est le progrès, au fond. Donc, la littérature est un peu un instrument. Et c'est comme ça que Les Misérables sont conçus. On a un cours sur la bataille de Waterloo, mais qui n'a strictement rien à voir avec l'intrigue du roman. Ce sont des pages merveilleuses et complètement inutiles. On a en même temps une description complète de la construction des égouts de Paris. Et je veux dire qu'on s'en fout complètement, c'est pas du tout le sujet du roman. On n'est pas là à l'école d'architecture, mais Hugo se laisse aller à étaler un peu ses connaissances, à en faire profiter le lecteur, etc. Donc Hugo dispense toutes sortes de cours à la fois. Il y a un cours d'architecture, un cours d'histoire, etc. Et finalement, le roman, si on se limite au roman, il est assez faiblard. Le personnage de Jean Valjean est assez
ridicule. Oh, Notre-Dame, alors là, je plaiderais pour Notre-Dame de Paris et la gargouille que devient Quasimodo.
Oui, mais ça, si vous voulez, je ne dis pas que ce n'est pas un grand auteur, mais ce n'est pas un très bon romancier. La seule chose positive qu'on peut apprendre, parce qu'il ne faut pas oublier sous quel angle on parle de tout cela, qu'un jeune auteur peut apprendre de Hugo, c'est qu'il doit se lever tôt. Parce que Hugo fait une description tout à fait remarquable du départ des forçats pour le bagne de Toulon, départ qui a lieu à Bicêtre, ils doivent s'y rendre, je crois, à pied. Donc, avant le lever du jour, pour éviter que les gens n'assistent à la scène, quand il fait encore nuit, vers 4 heures du matin, disons, ces gens-là sont enchaînés les uns aux autres, ils forment une colonne et puis ils se mettent en route pour Toulon. Et la description qu'en fait Hugo est si précise, si bien, si réussie, qu'on se dit qu'il est forcément allé à 4 heures du matin assister au départ. Donc, pour devenir un bon écrivain, il faut pouvoir se lever à 4 heures du matin. Je pense que c'est la seule leçon utile qu'on peut tirer de Victor Hugo.
Alors vous, quel a été, pour commencer par le commencement, cher Vassili Aksakis, quel a été le premier livre finalement qui vous ait donné envie d'écrire? Est-ce qu'il y en a eu un?
Je pense que ça devait être deux livres français que j'ai dû lire à l'époque parce que j'avais une dizaine d'années en version jeunesse, n'est-ce pas? C'était le Comte de Monte Cristo et Cyrano de Bergerac, que j'ai dû lire d'abord en bande dessinée. Je pense que ces deux livres m'ont séduit beaucoup, papa, parce qu'effectivement, Cyrano est un personnage bien plus intéressant que Jean Valjean. Cyrano, c'est un homme qu'on n'aime pas, qui se bat contre son propre physique, contre son destin, et qui n'est jamais sûr de gagner. De toute façon, il ne gagne pas. Et Monte Cristo, c'est aussi un personnage très, très malheureux, au fond. Il réussit à se venger, mais la vengeance n'est jamais une grande joie.
C'est, je crois, Jean d'Ormesson qui disait que lui se disait qu'il n'avait peut-être pas écrit de très grands romans parce qu'il faut être malheureux et que lui était trop heureux. Alors vous, vous avez l'air de dire un peu la même chose, c'est que si on n'est pas malheureux...
Écoutez, je ne sais pas, je ne connais pas très bien la vie d'Edmond Rostand, mais celle d'Alexandre Dumas n'était pas malheureux du tout, et c'est quand même un très grand romancier. Non, je ne pense pas. On se fait cette idée quand on a 17 ans qu'il faut être très malheureux, qu'il faut souffrir pour faire ça. Non, je pense que la littérature est un art de fabriquer des histoires. Il faut avoir le goût de ça, il faut avoir la patience et on peut leur donner une envergure plus ou moins grande. Ça dépend peut-être du temps qu'on a. Au fond, le problème... Pour certaines personnes, ce n'est pas qu'elles ne sont pas assez malheureuses, c'est qu'elles n'ont pas consacré leur vie à ça. Elles n'ont pas fait que ça. Donc le roman est si complexe, si difficile, qu'il faut consacrer sa vie. Et encore, ça peut ne pas suffire. Mais la moindre des choses est de ne faire que ça.
Quand même, Vassilis, vous dites qu'on apprend ou on n'apprend pas dans certains auteurs. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a des cours en Amérique, partout. Il y a des cours comment savoir écrire un livre. Il y a des petites choses où on apprend à écrire dans plein de petites choses en province et partout. Est-ce que ça, c'est la condition du roman ou est-ce que quand même, il y a des gens doués, géniaux, talentueux et d'autres pas?
Écoutez, il m'est arrivé aussi de faire des cours comme ça, des petits séminaires. Je pense qu'on peut aider des gens, surtout des jeunes, à éviter certaines erreurs, mais on peut leur épargner certains égarements. C'est tout. Maintenant, le résultat dépend de leur talent, de leur capacité, du temps qu'ils disposent, etc. On peut leur éviter. Par exemple, c'est une chose très simple à dire, et je le dis à des élèves des lycéens, par exemple, c'est que le roman est le contraire du journal intime, c'est le contraire de la psychanalyse, qu'on ne fait pas un roman, on ne se lance pas dans cette entreprise pour raconter une histoire personnelle qui nous est arrivée, mais on le fait quand on a envie de fabriquer une histoire, disons, sans rapport à première vue, dans un premier temps, avec sa propre vie. Il faut s'éloigner de soi, il faut prendre un nain qui est général d'une armée colombienne et qui est amoureux d'une blonde qui habite en Australie, par exemple. C'est une meilleure façon de commencer un livre que de dire, je ne sais pas, j'ai perdu mon papa, ma maman, ma maîtresse, et donc je suis très triste. Donc vous voyez que la tristesse ne sert à rien. Au fond, il faut se dire que le métier d'écrivain est semblable à celui du menuisier. Un menuisier qui fait une armoire, on ne lui demande pas s'il est malheureux en amour, si ses enfants ont des problèmes, on lui demande de savoir faire une armoire. C'est exactement la même chose pour le romancier, il faut savoir faire l'armoire. Une fois qu'elle est faite ou que le travail est avancé, on peut évidemment aménager des caches, des tiroirs, des petits coins secrets où on peut placer différents objets, des choses, etc. Bien sûr, et ça, ça peut être des choses, des affaires tout à fait personnelles. Mais la difficulté, on est jugé sur la capacité de construire une histoire à partir de rien.
Alors, vous nous avez dit deux romans qui vous ont un peu donné envie d'écrire. Est-ce qu'il y a des romans que vous trouvez vraiment à décourager les...
Mais à part
ou des romanciers.
Kazantzakis, on fera l'inverse, je vous dirais plutôt ce que j'ai puisé dans certains autres textes. Kazantzakis aussi est très fatigant parce que d'abord, il brasse des idées, il parle de Lénine, du Bouddha, du Christ. Il donne une image de la Crète très héroïque. Les Crétois sont intraitables, ils meurent rarement et quand ils meurent, ça prend des proportions telles que c'est
romanesque.
Qu'on n'est pas triste de les voir partir, etc. C'est trop, ce n'est pas la vie, ce n'est pas, on a l'impression qu'il a vécu en dehors d'une société réelle, qu'il a imaginé des géants autour de lui. Au fond, c'est un peu Kazantzakis, c'est un peu un Don Quichotte, n'est-ce pas? Mais un Don Quichotte.
Don Quichotte est un grand
Mais attention, je veux dire un Don Quichotte qui se fait des illusions. Je veux dire l'aspect négatif de Don Quichotte, pas l'aspect romanesque qui est merveilleux. Et on peut parler effectivement de choses positives alors que j'ai épuisé. On peut commencer par Don Quichotte, évidemment, qui est quand même un livre exceptionnel. Don Quichotte, qu'est-ce qu'il nous apprend au fond? Et il nous apprend d'abord qu'on peut utiliser les livres qu'on a lus dans son propre livre. Don Quichotte est un lecteur. Ce n'est que ça qui se lance sur les routes en croyant aux histoires qu'il a lues. Et ça, c'est un aspect très intéressant parce qu'au fond, c'est un anti-héros. Voilà la différence de Don Quichotte avec les romans de Kazantzakis. C'est un personnage raté, c'est un personnage peut-être pas vraiment malheureux, mais tout de même, c'est un fou, c'est un... Je veux dire, si on le rencontrait dans la rue, ce personnage, s'il habitait notre immeuble, je pense que la plupart des gens se méfieraient de lui, ne lui diraient pas bonjour, parce qu'un monsieur comme ça, qui prend ses rêves pour des réalités, bon, inquiète plutôt. Donc c'est un anti-héros, et je pense que c'est formidable qu'à l'origine du roman moderne, il y ait un tel personnage. Au fond, Don Quichotte, c'est un personnage de Beckett, n'est-ce pas? Don Quichotte et son acolyte et Sancho font un couple comme en attendant Godot. Don Quichotte aussi attend qu'il arrive quelque chose, mais c'est exactement Godot. Et je pense que l'ombre de Don Quichotte est sur toute la littérature, même celle qui s'écrira dans les décennies à venir.
C'est drôle, excusez-moi de vous interrompre une seconde, mais vous avez parlé déjà de deux pièces de théâtre en parlant du roman, Cyrano de Bergerac et Godot.
Oui, bien sûr, bien sûr.
On y reviendra après,
on peut revenir après sur le théâtre. Mais il y a un autre aspect, il y a la distance qui est très moderne, je trouve, que prend l'auteur par rapport à ses personnages, toujours en parlant de Don Quichotte. Parce que ce texte a été publié en deux volumes, avec un écart d'un certain nombre d'années, il me semble, entre les deux. Donc, quand le roman recommence, quand le deuxième volume paraît, qu'est-ce qu'on lit ? On lit qu'un jour, Don Quichotte apprend qu'un premier volume sur ses aventures a été publié. Et il se demande qui a pu écrire ça, et il dit que ça doit être plein de bêtises. Voilà comment le personnage lui-même du roman se moque de l'écrivain et de la première étape de ses aventures. Donc ce type d'humour, malheureusement, tous les écrivains ne l'ont pas, mais... je pense que cette distance est extrêmement moderne. C'est le roman d'aujourd'hui dans ce qu'il a de meilleur, n'est-ce pas?
D'ailleurs, Elsa Morante, qui est une écrivain italienne, a repris un peu le truc, mais qui est devenue de la distanciation brechtienne, donc un peu moins humoristique, évidemment.
C'est moins drôle, tandis que dans Don Quichotte, c'est d'une drôlerie infinie, parce qu'il cherche à se renseigner qui est cet individu qui a pu écrire sur eux eux-mêmes ne le connaissent pas. Donc, Don Quichotte démolit son propre roman. Voilà, en gros, c'est ça. Il s'en moque, etc. C'est formidable et c'est une leçon extrêmement utile pour un jeune auteur. Mais maintenant, on pourrait parler d'autres choses qu'on apprend. Et je vais revenir au théâtre. Vous avez raison. Vous savez, mon père était comédien. Le théâtre m'a un peu marqué. Je voulais parler de Dickens, qui est aussi un auteur exceptionnel. Mais Dickens, on apprend tout de suite quelque chose. Il suffit d'ouvrir Les Grandes Espérances. Dès la première page, on apprend cette chose essentielle, c'est qu'il ne faut pas prendre un air funèbre pour raconter des histoires tristes. Qu'on peut les raconter d'une manière très gaie, sans nuire à leur tristesse, à leur gravité. Donc voilà, dans Les Grandes Espérances, comment l'histoire d'un jeune homme orphelin qui est malmené par la famille dans laquelle il vit, c'est la famille de sa sœur, il me semble, qui vit dans un endroit sinistre, une petite ville, une commune, dans un site marécageux, etc. C'est absolument, tout est affreux. Il ne mange pas à sa faim, il me semble. Il est maltraité et tout. Donc, cette histoire d'une tristesse noire, Dickens la raconte d'une plume légère, et elle est drôle du début à la fin. C'est formidable parce que non seulement il a toutes sortes d'ennuis, ce jeune homme, mais en plus il tombe sur un bagnard en fuite à côté des marécages, n'est-ce pas? Et ce bagnard l'attrape par les pieds et le retourne en lui disant « apporte-moi quelque chose à manger », il l'oblige à voler. Or, comment Dickens raconte ça? Il dit, il ne donne pas le détail de ce que fait le bagnard qui l'attrape par les pieds, mais il dit simplement qu'à un moment donné, j'ai vu le clocher de notre église à l'envers. C'est formidable de dire comme cela les choses et on apprend quelque chose et je pense que c'est un livre, Les Grandes Espérances, ou David Copperfield, mais plutôt Les Grandes Espérances, un livre qu'il faut lire en priorité.
Vassilis, on va faire une petite pause et nous reprenons très vite.
Avec Jean Pruvot, la chronique hebdomadaire, mot pour mot, revisite le quotidien de la langue française, la bourde et la faribole, les immeubles et les vacances, la grippe et le bégaiement, et nous donne l'origine de ces termes qui ne sont pas si anodins qu'ils en ont l'air. Jean Pruvot enseigne la linguistique, la lexicologie et la lexicographie à l'université de Cergy-Pontoise. Toutes ces chroniques sont en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Vassilis Alexakis, nous reprenons au plaisir d'insolence, l'émission qui prend le temps de parler littérature, et nous en parlons vraiment aujourd'hui. Hein. C'est une insolence déjà de prendre le temps. Hein. Alors, vous me parliez de Dickens et du clocher à l'envers.
Et du clocher à l'envers, donc, et la même leçon, on peut la trouver chez Beckett, par exemple, parce qu'au fond... je cite encore en attendant Godot, mais enfin la plupart des textes de Beckett, ce sont des textes très drôles, mais qui décrivent des situations, évidemment, un tout petit peu de limite, un peu... Voilà, c'est des gens perdus, c'est des gens comme si... bon... Et cependant, Beckett est très drôle. En attendant Godot, c'est une pièce très drôle. Enfin, on rit souvent, ils essayent de se souvenir, ils se perdent. Et la chose... qu'ils essayent de retrouver, c'est un souvenir insignifiant. Est-ce qu'ils ont fait les vendanges dans le Vaucluse, etc. Ils commencent à parler de choses invraisemblables. Bon, il y a un goût de la dérision chez Beckett qui est formidable. Chez Dickens, c'est pas le goût de la dérision, c'est simplement le goût de l'humour.
Attention, vous êtes en train de me reparler théâtre et en vous écoutant. Alors donc, on va aborder le sujet du théâtre et en vous écoutant, je me disais aussi que ça n'est pas quand même nécessairement le propre du roman, parce que je pensais vraiment en vous écoutant à La Négresse blonde de Georges Forest. Vous savez ces poèmes où il y en a un pour rappeler qui commence par au bord du Lujiji qu'embaume les arômes des tombeaux, le roi Makoko est assis. Bon, et donc, dans ce poème, alors il se passe un tas de choses, il y a des viviers, il y a des choses, et puis il y a la mangrove, et à la fin, il recrache un os qui est l'os de son aïeul qu'il sort de la casserole. Bon, donc il y a un peu ce genre de chute terrible.
Mais,
c'est le propre du roman?
Tout à fait humoristique, mais moi je pense que le roman, c'est complexe, qu'il a besoin de tout, qu'il se nourrit de tout. Il a besoin de toutes sortes d'aliments. Donc, il a besoin de l'absurde, il a besoin de la poésie, il a besoin de l'humour, il a besoin du drame, il a besoin de tout. On ne peut pas faire un roman jouer un air de musique sur une seule corde. Donc, le roman est plus complexe que tout le reste. C'est son intérêt et c'est ce qui ressemble d'ailleurs à la société dans laquelle nous vivons. Je pense que le roman est né parce que nous en avions besoin. Le roman, l'existence du roman à la gare. Il suffit de se rendre dans n'importe quelle gare parisienne, voir cette foule qui déboule des banlieues, de l'étranger, de n'importe où, qui court avec des valises, etc. Comment voulez-vous tenter de rendre compte de ça, de l'ambiance d'une gare, si on ne dispose pas du roman? Tout le reste paraît insuffisant pour affronter des choses aussi complexes, aussi difficiles.
Est-ce que vous allez jusqu'à plaider pour le talent de Dely, des romans de gare, de la collection
Arlequin? Ça, c'est exactement le contraire. ça, c'est des romans qu'on lit dans les gares pour trouver une paix, pour trouver une historiette comme ça, etc., un peu insignifiante. Non, c'est exactement le contraire de
la conception
que j'ai du roman. Moi, je parle d'une chose extrêmement complexe, extrêmement difficile à faire, et pas de petits récits linéaires qui sont peut-être divertissants. Moi, je ne suis pas contre de la littérature de gare du tout. Je pense que c'est déjà important que les gens lisent. Donc, dans la mesure où cette littérature fait lire, c'est déjà une bonne chose. Peut-être ces gens-là iront un jour dans une librairie, et sans doute certains y vont. Mais pour poursuivre, alors, dans le sens des leçons qu'on peut recevoir de certains écrivains, je pense par exemple à Flaubert. Flaubert donne une grande leçon dans n'importe lequel de ses livres, mais enfin, notamment dans l'éducation sentimentale. Ce que nous apprend Flaubert, c'est qu'il ne suffit pas, et voilà comment on retrouve la complexité du roman, qu'il ne suffit pas de raconter une scène, qu'on peut raconter toujours une deuxième scène qui se passe dans l'arrière-fond, en retrait, un peu plus loin, et que l'opposition entre ces deux scènes peut profiter à celle qui importe davantage pour le romancier, mais elle peut lui donner, la scène du fond, un poids supplémentaire. Pour citer un passage, c'est le fameux passage de l'attente d'un jeune homme, où enfin cette femme dont il est si éperdument amoureux va venir à un rendez-vous qu'il lui a fixé dans une ruelle de Paris, où il a même louer un appartement ou un studio pour l'accueillir. Donc lui, il est dans la rue et il attend. Cela fait des pages et des pages où elle attend. Mais enfin, ce jour-là, enfin, elle va venir. Donc lui, par superstition, il compte ses pièces de monnaie. Il se dit que si c'est un nombre pair, elle va venir. Si c'est impair, elle ne viendra pas. Et là, toutes les angoisses, etc., participent avec lui à son attente. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fond de cette rue, il y a une barricade et qu'il y a le feu et qu'il y a une révolution qui se passe au même moment. Mais lui, il s'en manque complètement. N'est-ce pas? Lui, ce qui lui importe, c'est que la femme vienne et que, éventuellement, les barricades ne l'empêchent pas d'avancer jusqu'à cette ruelle où il attend. Donc, à quoi sert cette barricade? Au fond, elle met davantage en valeur la solitude absolue du personnage qui attend et l'immensité de son amour qui le rend aveugle à un événement aussi extraordinaire qu'une révolution. N'est-ce pas? Et en même temps, Flaubert raconte cette révolution.
C'est l'inverse de Victor Hugo. Hein?
C'est exactement l'inverse de Victor Hugo. Victor Hugo n'aurait jamais laissé son personnage en attente, n'aurait jamais donné une telle importance à une histoire d'amour. Il serait allé droit sur la barricade au risque de se brûler. Il nous aurait fait un très beau récit d'une barricade, mais un roman beaucoup moins intéressant que l'éducation sentimentale, bien sûr.
Alors, c'est intéressant parce que vous avez pris encore des exemples presque uniquement, Quichotte, au XIXe siècle.
Oui.
Quand est-ce que vous situez les débuts pour vous du roman?
Vous savez, on a été élevés, enfin, quand j'étais enfant, c'est ce qu'on lisait, la littérature du XXe siècle. Bon, j'ai quand même cité Gazanzai, qui c'est tout de même.
Oui, début XXe, oui.
XXe siècle, première moitié.
Première moitié du XXe siècle.
Oui. Mais c'est un auteur, en fait, du XIXe, bien sûr, Gazanzai aussi.
Oui.
Non, je veux dire par là que forcément, Moi, j'ai grandi, les choses que j'ai lues, c'était plutôt le 19e siècle. C'est le 19e siècle que je connais le mieux. C'est
Vous ne parlez pas de James Joyce.
Ça n'a pas eu le temps de me marquer suffisamment.
Ça ne vous a pas dégoûté
vous comprenez,
non plus.
Non, ça ne m'a pas ni dégoûté, ni touché. J'ai trouvé ça très intéressant, comme je trouve très intéressant un livre paru il n'y a pas si longtemps comme ça, comme La vie mode d'emploi de Pérec. C'est des livres extrêmement intéressants. Simplement, ils ne me touchent pas énormément. J'aime beaucoup les jeux. D'ailleurs, auprès de Pérec, on apprend aussi beaucoup de choses. On apprend qu'on peut jouer avec des textes. On parlait tout à l'heure des livres qu'on peut utiliser dans un récit, mais qu'on peut jouer avec les mots, qu'on peut jouer, qu'on peut tirer un roman, même d'un livre insignifiant, enfin d'un roman de gare, comme vous disiez tout à l'heure, ou même d'un catalogue de Manu France. Et c'est des exercices que j'ai eu l'occasion de faire à la radio, à France Culture. Dans le cadre de l'émission Les Papous dans la tête, j'ai arrêté de participer à cette émission, mais enfin, j'y suis allé pendant 15 ans tout de même. Donc c'était un peu des jeux à la Pérec, mais j'étais familiarisé avec ça déjà par Ionesco, parce qu'on sait que la cantatrice Chauve est une pièce basée sur la méthode à 6000, n'est-ce pas ? Ionesco a écrit une merveille de drôlerie en se servant d'une méthode toute bête où on pose des questions du genre « Est-ce qu'on a frappé à la porte ? Mais non, il n'y a personne, etc. Est-ce qu'il va ouvrir ?»
Caresser à cercle, il deviendra vicieux.
Oui, c'est ça, formidable, formidable.
Attention au théâtre encore. Donc votre père influe beaucoup en coulisses.
Mais oui, parce que...
Parce que vous aimez les chutes, vous aimez les suspens, vous aimez les
beaucoup,
trois coups.
Beaucoup, beaucoup,
Vous aimez beaucoup un art assez théâtral. D'ailleurs, quand vous parlez, vous l'êtes. Et quand vous écrivez, vous êtes assez théâtral.
Est-ce que c'est théâtral ? Je ne sais pas. Ça, c'est... Je ne peux pas, vous savez, je ne peux pas juger ce que je fais. Ce n'est pas mon rôle et je n'ai pas le mieux placé pour dire ce que c'est. Je ne peux pas définir. Je peux parler des livres des autres. Vous me parliez évidemment du XXe siècle, mais
oui.
Moi j'ai découvert Proust, Céline, qui sont pour moi les deux écrivains qui comptent vraiment les plus importants français de ce siècle. Bon, je les ai découverts quand même à 25 ans, n'est-ce pas ?
Vous parlez peu des Grecs.
Or, je pense, mais vous savez, la Grèce étant occupée jusqu'au début du 19e siècle, pendant 4 siècles,
par les Turcs,
l'Empire ottoman, etc., toutes ces histoires-là, ce n'est qu'après sa libération que sa littérature moderne a pu se développer, mais il faut, je veux dire, le 19e siècle français est le résultat d'un laboratoire littéraire vieux de plusieurs siècles, n'est-ce pas ? Donc la Grèce a peiné à produire du roman. Il y a quelques romans grecs du 19e siècle. L'un est tout à fait célèbre, c'est la papesse Jeanne de Roïdis, l'histoire d'une papesse femme, etc. C'est un livre très drôle et très remarquable qui est publié en français. Et qui a une influence sur beaucoup d'auteurs, je crois, et anglais surtout. Mais ce n'est qu'à partir du XXe siècle, il faut, vous comprenez, ce n'est pas seulement la tradition qui manquait à la Grèce, c'était aussi la réalité grecque qui n'avait pas besoin de romans. C'était une réalité où il n'y avait pas encore de grande ville, il n'y avait pas de gare. Or, c'est la gare qui déclenche le roman. Je suis absolument sûr de ça. La gare, l'industrie, la foule, etc. Et la Grèce n'avait pas ça. La Grèce a eu ça après les années 1920, c'est-à-dire quand les Grecs d'Asie mineure ont été rapatriés, quand les colonies grecques, enfin les communautés grecques de l'étranger ont regagné le bercail. Donc à partir de ce moment, donc en gros, on peut dire que le roman grec date des années 30. Voilà.
Oui, donc c'est très tardif.
Donc, par conséquent, c'est très récent.
Bien après votre...
On peut parler de deux grands auteurs grecs qui sont Tsirkas, qui a écrit Cité à la dérive, qui a eu dans les années 70 le prix du meilleur livre étranger à Paris. Et puis l'autre est Kostas Taktis, qui a écrit Le troisième anneau, traduit par la carrière, c'est chez Gallimard, qui est un livre tout à fait remarquable. Là, ce sont deux romans réellement importants.
Vous parlez peu de la Mittel-Europa. Vous parlez peu de Robert Musil, de Schnitzler, de tous ces juifs qui ont émigré après aux États-Unis, qui était au cœur de l'Europe.
Mais vous savez, parce que c'est autour de 20 ans qu'on absorbe le plus de choses. Ouais. Et là, ce sont les hasards qui font qu'on lit tel auteur ou tel autre. Si on tombe sur des auteurs qu'on aime bien, on poursuit. Par conséquent, on ne cherche pas, on n'est pas en train... Vous savez, les livres sont comme des adresses. Une fois qu'on a trouvé une adresse qui vous convient, on y reste un moment, n'est-ce pas? Donc, moi, parmi les Américains, par exemple, j'ai beaucoup aimé, quand j'avais 20 ans, Faulkner et puis Mark Twain. Voilà, que je trouve qui est... Je trouve que c'est, à part un humoriste, un très grand auteur, un très grand romancier. Évidemment, ces auteurs m'ont beaucoup plu et j'ai lu la totalité de leurs écrits, comme j'avais lu avant la totalité
Dickens.
De Dostoïevski, plus sa correspondance. Donc, je veux dire, on plonge dans un univers et puis, on ne peut pas, par conséquent... chercher dans toutes les directions.
Dont vous diriez qu'il vous a appris le plus?
C'est le hasard qui fait un peu ça.
Quel est celui dont vous diriez qu'il vous a sans doute appris le plus ou auquel vous pensez quand vous donnez des cours à des gens plus jeunes? Quel est celui qui vous a épaté de la même manière que le clocher à l'envers, des choses qui vraiment vous ont...
C'est très difficile d'isoler, de dire... Je pense qu'à une époque, Dostoïevski a dû m'impressionner beaucoup, mais j'ai l'impression de l'avoir complètement oublié par la suite. Je pense que, par exemple, Alexandre Dumas était plus important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dumas, c'est des romans un peu fabriqués, etc. C'est un peu l'usine, bien sûr. Il en écrivait je ne sais pas combien de pages par jour, etc. Il ne faut pas juger... Alexandre trop sévèrement. C'était aussi le 19e siècle, le roman populaire, n'est-ce pas? Tous ces gens-là, même Dickens, écrivaient des textes qui paraissaient quotidiennement dans les journaux. Ils allaient un peu vite, c'est vrai. Mais il y a chez Dumas l'enthousiasme pour le roman. Il adore le roman, à l'opposé de Hugo qui se sert du roman. Dumas adore ça. Et il y a des passages dans ses livres qu'il a visiblement écrits lui-même, puisqu'il n'a pas tout écrit, bien sûr. Il y a des dialogues interminables, etc. Il fait du remplissage, on sait tout ça. Mais de temps en temps, on sent qu'il a pris la plume et qu'il arrange un petit passage. Et là, c'est une merveille.
Oui, il y a plancher, à un moment donné, il y a un valet qui n'apparaît que par le panier qu'il porte devant lui pendant très longtemps.
Par exemple,
on ne voit pas plancher, on voit le panier.
Par exemple, vous faites penser à une dernière leçon que j'ai reçue, encore de Flaubert, je dois dire. C'est qu'au fond, là, c'est la fameuse scène où ils sont dans une calèche. Non, ce n'est pas une calèche, où les deux personnages, c'est dans Madame Bovary,
oui.
N'est-ce pas, se promènent dans la ville et visiblement, les deux personnages font l'amour dans la voiture, mais évidemment, le lecteur n'a pas le droit de pénétrer à l'intérieur. On imagine qu'il se passe des choses dans la voiture parce que le trajet dure très longtemps et chaque fois qu'ils arrivent à une adresse, l'homme à l'intérieur de la voiture est obligé de crier une autre adresse au cocher parce qu'il faut que ça dure plus. Donc ils font le tour de la ville, nous on n'a rien vu de la scène, mais un tel tour de ville qui dure si longtemps laisse penser, permet d'imaginer toutes sortes de choses. Et c'est formidable cette façon... tout à fait indirect de dire les choses sans décrire l'objet, mais en décrivant un peu les... C'est un peu comme si on décrivait un coup de vent par le déplacement d'une feuille de papier sur un bureau, n'est-ce pas? C'est une façon merveilleuse de dire et très puissante de dire les choses sans les dire, au fond. Ça, c'est une leçon.
Alors, Vassilis Alexakis, merci de nous avoir raconté les livres qui suscitent l'envie d'écrire et peut-être le talent. Va savoir. Je vais expérimenter ça pour finir les miens.
Et vous me tenez au courant. Tenez au courant de vos tentatives.
Il s'appelle Camailleux de ma jeunesse et la fée d'Archangelsk.
Très bien, très bien.
La chère Vassilis. Alors, sans doute un de ces jours pour parler des vôtres de romans. Merci, c'était au plaisir d'Insolence.
Merci beaucoup, merci.